Robineau, bonjour.
Bonjour.
Je veux d'abord vous demander de vous présenter, de nous dire un petit peu qui vous êtes.
Oui, alors je suis donc Marie-Yvonne Robineau, j'habite à Londonon, dans le Maine-et-Loire, enfin en bordure de Loire-Atlantique. Et donc j'habite là avec mon mari Bruno, qui était à l'origine de notre projet de voyage dont on va parler tout à l'heure, et puis avec nos deux enfants, Vincent et Sarah.
Alors justement, ce projet de voyage, ça a été en fait un tour du monde, mais qui à la base est parti du domaine agricole.
Voilà, parce qu'en fait, donc nous sommes tous les deux originaires des Mauges, du Choletais, où mon mari était agriculteur. Nous sommes tous les deux, mon mari et moi-même, originaires du milieu agricole. Bruno a donc a continué la tradition familiale en étant agriculteur éleveur laitier. Et quand nous sommes partis donc pour découvrir le monde, pour ce tour du monde, eh bien nous avons choisi comme thème, comme schéma directeur, la vie rurale, c'est-à-dire aborder les pays à travers leur vie rurale, en vivant et en travaillant avec des paysans, donc avec les collègues de Bruno, c'est-à-dire que lorsque nous arrivions dans un pays, eh bien nous cherchions une famille d'accueil, donc des gens qui veuillent bien nous recevoir et chez qui nous travaillons en échange du gîte et du couvert. Et puis on restait là, eh bien, quelques semaines, quelques mois, ça dépendait des circonstances. Et donc on partageait le quotidien d'une famille, le quotidien d'un village. Et c'est comme ça qu'on a fait notre tour du monde pendant 8 ans.
Alors, à travers ce tour du monde, vous avez découvert une langue universelle qui s'appelle l'espéranto.
Oui.
Est-ce que vous pouvez nous en parler un petit peu? Comment s'est passée cette découverte et est-ce que ça vous a beaucoup aidé, l'espéranto? Ça s'est passé comment?
Oui, alors comment s'est passée la découverte? En fait, l'espéranto, nous savions ce dont il s'agissait avant de partir en voyage, puisque c'était quelques temps avant notre départ. Nous étions à une foire, à un salon à Cholet, et là nous avons été attirés par un stand qui avait comme banderole Faites le tour du monde avec l'espéranto. Alors bon, on était en préparatif de voyage, donc tour du monde, ça tout de suite fait tilt pour nous. Par contre, espéranto, on ne savait pas ce que c'était, mais bon, ça nous a bien sûr attirés. On est allé se renseigner sur ce phénomène espéranto. On savait tout juste que c'était une langue, mais c'était tout. Et là, on s'est renseigné et on a décidé sur le champ, eh bien, que ça serait quelque chose qui pourrait nous être utile en voyage. Donc, il faudrait l'apprendre. Alors, on a commencé un petit peu l'apprentissage par des cours par correspondance à l'époque. Mais bon, mon mari étant agriculteur, il n'avait pas beaucoup de temps pour l'étude des langues. Et donc, on a remis ça à plus tard. On s'est dit, on l'apprendra en cours de voyage. Alors, ça s'est trouvé donc un an après notre départ, dans une école en Bulgarie. Nous avons passé un mois et demi d'études intensives. On avait 3-4 heures de cours le matin et puis l'après-midi, nous travaillons donc en travail personnel. Donc des journées intensives d'études de l'espéranto. Et au bout d'un mois et demi, eh bien, nous avions déjà une bonne connaissance de la langue. Et cette connaissance, eh bien, nous l'avons tout de suite mise en pratique puisque à cette école, nous avons rencontré des Bulgares, donc espérantophones, et ils nous ont invités chez eux. Même si à l'époque, c'était interdit, nous étions sous régime communiste, mais ils nous ont invités chez eux et donc nous avons séjourné dans plusieurs familles bulgares dans différents coins du pays, et donc avec comme seule langue commune l'espéranto. Donc ça, pour nous, ça a tout de suite été la pratique de la langue. Et ensuite, nous sommes allés en Hongrie. Alors en Hongrie, c'est pareil. Là, notre seule langue de communication, pratiquement, c'était l'espéranto, parce qu'on ne parle pas le russe, on ne parle pas l'hongrois, on ne parle pas l'allemand. Donc on a beaucoup séjourné dans des familles espérantophones. Et au bout de 6 mois, donc avec l'étude et puis ensuite la pratique, eh bien, nous parlions couramment l'espéranto.
Donc, votre tour du monde a duré 8 ans.
8 ans et demi, oui.
Donc, vous avez parcouru des pays comme le Japon, comme la Chine, la Malaisie, l'Israël. Vous avez facilement trouvé des gens espérantophones dans les différents pays. Ça s'est passé comment? Il y a un réseau qui existe? Comment
Voilà,
ça
alors,
se...
parce que c'est vrai que si vous marchez dans les rues de Tokyo ou de Pékin en espérant trouver comme ça par hasard
Oui,
un
voilà, je
espérantophone,
me
vous allez marcher longtemps, hein, ça je vous le garantis. Par contre, il n'est pas difficile de trouver les espérantophones puisque il existe des réseaux. Alors, nous avions dans notre sac à dos deux petits livres qui ne prenaient pas beaucoup de place, mais qui nous ont été très utiles. Alors, nous avions donc toujours avec nous le Jahr Libro. Et Jahr Libro, c'est en fait, ça veut dire annuaire, c'est le livre de l'année, il en paraît un tous les ans, qui recense des adresses. Alors, non pas les adresses de tous les espérantophones, bien sûr, mais les adresses des délégués de l'Association universelle d'espéranto qui est basée à Rotterdam. Alors, c'est-à-dire que si on arrive, je vais prendre, je ne sais pas, au Japon, voilà, vous avez parlé du Japon. Donc, on va trouver des délégués dans toutes ces villes. Donc, si on arrive à Tokyo, eh bien, on regarde à Tokyo, il doit y avoir, je ne sais pas combien il y a de délégués, voilà, il y en a une dizaine de personnes que l'on peut contacter, et eux vont vous mettre en contact avec les espérantophones de la région de Tokyo. Donc ça marche ainsi par réseau. Il y a donc des délégués de cette association universelle d'espéranto. Il y en a dans 99 pays. Il y a 1960 délégués dans 99 pays. Et puis, il y a d'autres réseaux aussi, mais bon, on ne les avait pas tous. Il y a aussi l'Amicizia Reto, qui est aussi un réseau d'une autre association. Et puis, nous avions aussi toujours avec nous ce petit livre qui est Passporta Servo. Alors, Passporta Servo, ça, c'est un réseau également de gens qui parlent espéranto et qui sont prêts à accueillir chez eux des gens, à condition que ceux-ci parlent également l'espéranto. Alors, bon là c'est pareil, il faut les contacter un petit peu à l'avance, soit par téléphone ou en écrivant. Et puis, ben, on peut rester quelques jours ou quelquefois quelques semaines. Enfin bon, tout dépend des conditions qui sont énoncées dans la liste, hein. Et donc, notamment avec Passporta Servo, puisque j'en reviens au Japon, eh bien, pendant nos 9 mois de séjour, nous avons séjourné dans 22 familles espérantophones. Donc nous avons été accueillis ainsi de famille en famille. Bon, au Japon, l'accueil, c'est pas le même, il n'est pas abordé de la même façon qu'en Europe, donc c'est quelquefois un peu plus difficile. Et puis, ce sont souvent des séjours assez courts dans les familles. Mais il y a une famille qui habite à Toyota, donc la ville où on produit les voitures. Et eux, eh bien, on est, chez eux, on est resté voilà, 6 semaines. C'est Yoshitaka Kuroyanagi. Il est ingénieur donc chez Toyota, justement. Et nous sommes restés 6 semaines chez eux. Donc voilà comment on trouvait nos familles et puis aussi nos familles d'accueil, nos contacts espérantophones et puis aussi bon même des gens qui sont pas recensés dans les réseaux. Bon, si on est dans une famille nous envoie chez une autre qu'elle connaît, etc. Donc c'est une chaîne quoi un petit peu, hein. Et donc on a voilà comment on a trouvé nos contacts espérantophones quoi, qui nous ont ouvert. Alors évidemment on parle l'anglais couramment, on parle espagnol couramment qui est indispensable en Amérique du Sud, mais je dirais que l'espéranto en fait ça a été un plus, ça nous a donné autre chose que la pratique de l'anglais, qui est indispensable quand on voyage, mais qui ne vous ouvre pas forcément les portes des familles. Là, en fait, on est dans des réseaux et on a affaire à des gens qui ont appris une langue avant tout parce qu'ils ont envie de communiquer avec les étrangers. L'anglais, on l'apprend parce que c'est obligatoire à l'école, parce qu'il le faut pour le commerce ou les affaires, pour trouver une profession. Mais l'espéranto, on l'apprend parce qu'on a envie de contact avec les étrangers. Et c'est vrai que nous avons eu affaire à des gens très ouverts, donc qui sont peut-être effectivement plus ouverts que la moyenne de leurs concitoyens. Et de ce fait, eh bien, on est facilement accueillis dans le monde espérantophone.
Et vous, est-ce que vous avez reçu des espérantophones du monde entier, par exemple, en accueil chez vous également?
Oui, alors maintenant, donc, nous avons une maison, nous sommes stabilisés, Et donc, nous avons maintenant la possibilité d'accueillir. Donc, nous sommes délégués apparaissant dans le Yar Libro de l'Association universelle d'Espéranto. Nous sommes famille d'accueil dans le réseau de Pasporta Servo. Et donc, nous sommes de temps en temps contactés par des étrangers qui parlent espéranto et qui souhaitent donc venir chez nous à Landemont. Alors, eh bien, nous avons accueilli à la maison, alors nous avons plusieurs fois des Japonais, nous avons eu un Lituanien, une famille chilienne, un Brésilien, des gens bon, d'Europe occidentale, et puis je ne sais plus qui, enfin bon, des gens d'un petit peu partout, quoi, qui séjournent chez nous pour quelques jours. Il y en a même qui sont restés plus longtemps parce qu'ils étaient, notamment, je pense à Vagnudo, là, le Brésilien, il était dans un voyage au long cours, il avait le temps, il y avait un petit peu de travail à faire dans le jardin et à la maison, donc eh bien, il est resté chez nous et puis il nous a aidés, et il est resté plusieurs semaines comme ça.
Donc si je comprends bien, l'espéranto, en plus d'une langue, il y a un côté aussi familial, humain.
Tout à fait, oui. Parce que bon, c'est une langue qui permet de communiquer, mais c'est vrai qu'il y a en fait, je dirais, une base commune à tous les espérantophones que j'appellerais un certain humanisme, hein, cette envie de contact avec des hommes d'autres cultures. Et donc on retrouve, c'est vrai, cette base culturelle commune, au-delà de toutes nos différences culturelles, bien sûr, qu'on a entre un Japonais, un Togolais ou un Français. Mais il y a ce qui nous unit, ce même humanisme, cette même envie de dépasser les barrières linguistiques et culturelles pour aller à une véritable rencontre de l'autre. Donc au-delà de nos différences, essayer de briser un peu ces barrières en ayant une langue commune que tout le monde a fait l'effort d'apprendre, qui ne véhicule pas d'impérialisme culturel. Et donc on est tous à égalité face à cette langue et on a une base commune d'échange, quoi, hein. Donc c'est vrai que ça, c'est quelque chose de très fort, qu'on ressent très très fortement entre les espérantophones de toute culture, de tout pays.
Alors, de vos voyages, vous avez ramené justement des souvenirs sous forme de diaporama,
oui,
que vous souhaitez faire partager à différentes personnes, je pense.
Alors, en fait, voilà, on a ramené différents souvenirs. Il y a un des souvenirs qui est là, c'est Vincent. Puisque Vincent, nous l'avons adopté pendant notre voyage, enfin, si on peut l'appeler souvenir, c'est notre fils. Mais enfin bon, il est une des conséquences du voyage, un engagement qu'on a pris. Et donc, voilà, on a adopté Vincent en cours de route pendant notre voyage, pendant que nous étions en Bolivie. Au-delà de cela, bien sûr, et nous avons eu, quand nous sommes rentrés, bien, nous avons eu envie de parler de cette expérience, d'en témoigner, de faire partager notre vécu. Et donc maintenant, eh bien, nous sommes conférenciers, c'est-à-dire que nous avons monté des reportages, des conférences audiovisuelles à partir de diapositives qui racontent donc notre expérience, à la fois notre vécu sur la route, notre vécu dans les familles, tous ces gens que nous avons côtoyés, des anecdotes de voyage, et puis aussi beaucoup de réflexions sur l'art du voyage, sur la vie aussi, tout simplement, sur le bonheur, sur la relation avec l'autre, tous les préjugés qu'on peut avoir sur le dépassement de ces barrières. Et donc on raconte tout ça dans des conférences. Donc on a deux conférences audiovisuelles qu'on présente dans les associations culturelles, dans les bibliothèques, enfin l'initiative de toute personne, toute association, quoi, hein, qui veut nous faire venir chez elle. Et puis on raconte ça aussi dans un livre qu'on a écrit qui s'appelle Et leur vie c'est la terre, qui reprend les faits importants de nos 8 ans. Enfin, on y a mis ce que l'on considère l'essentiel de ces 8 ans, donc à la fois un récit et puis aussi pas mal de réflexions, parce que d'un tel voyage on ne revient pas le même, quoi, hein. Ce livre et cette conférence ont d'ailleurs été traduits en espéranto. Donc la conférence, on l'a présentée déjà pas mal de fois devant des publics espérantophones, des publics internationaux. On l'a présentée au cours de congrès qui rassemblent des gens de différents pays, notamment au congrès universel d'espéranto qui s'est passé à Montpellier il y a 2 ans, en 98. Et là, il y avait 3000 personnes, je crois, de 67 pays. Donc c'était assez extraordinaire. C'est assez extraordinaire de participer à un de ces congrès, d'avoir des gens du monde entier qui se côtoient, qui participent à des séminaires, à des colloques, à des spectacles, avec une langue commune, c'est-à-dire sans écouteurs, sans interprètes, sans casque sur les oreilles, en dehors des séminaires, bon, quand on est dans le rôle d'un palais de congrès, qu'on parle avec un japonais, on se retourne, on parle avec un cubain ou un togolais, bon, c'est vrai que c'est quelque chose d'assez extraordinaire, quoi. Il y a une ambiance internationale qui est assez extraordinaire à vivre. Et donc, dans ce cadre-là, notamment, on a présenté notre conférence en espéranto, et puis notre livre a aussi été traduit en espéranto.
Et votre livre se trouve, on peut le trouver où ?
Alors, le livre n'est plus disponible en librairie, il est épuisé chez le distributeur et il ne l'a pas repris. Donc nous avons racheté le petit stock restant et il est encore disponible donc chez nous au prix de 150 francs port compris. Alors c'est Bruno et Marivonne Robineau, Le Moulin Boireau, 49 270 à Landemont. Et pour nous contacter, c'est le 02 40 98 78 76.
Très bien, je vous remercie, madame.
Merci.